L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Merci d'être là pour cette dernière de la saison. Je vous rappelle que tout au long de l'été, on vous proposera toute une série de best-of avec les meilleurs moments de cette saison. Et on sera là à la rentrée, bien évidemment. Je vous propose maintenant notre passion selon Sanette. Et pour cette dernière de la saison, avant de partir sur la plage, on a tous brainstormé. En fait, voilà, toute l'équipe de l'atelier. Il y a dans ce studio Aurore Géraud, Lila Megraoua, Romain Chaperon, Jean de Chambure. Et nous sommes dit, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de cette saison 2014-2015? Quels sont les tops et quels ont été les flops? Voilà. En 12 minutes, on va essayer de s'en sortir. Ça va pas être facile parce qu'il y a eu quand même pas mal de mouvements dans le monde de la high-tech. Jean de Chambure est prêt. Il va nous parler de la Chine dans quelques instants.
De l'Asie même, de l'Asie.
De l'Asie même. Et on va commencer peut-être par Aurore Géraud qui va nous évoquer l'un de ses flops de cette année.
Tout à fait.
Qui sont?
La Apple Watch.
La montre connectée?
Oui, pour moi, c'est un flop.
Mais vous avez piqué mon flop.
Mais non, c'est mon flop.
Mais non, c'est le mien. Mais alors, vous dites ça pourquoi? Parce que vous aimez pas les montres connectées ou parce qu'il y a des chiffres tangibles?
Non, parce que
qui
j'ai
nous
des chiffres.
Ça.
J'ai des chiffres qui sont très, très mauvais, en fait. Il y a une étude qui vient de sortir de Slice Intelligence, qui est un spécialiste de l'analyse consommateur et vente en ligne, et qui montre que 200 000 exemplaires vendus par jour au moment de son lancement sont devenus 5 000 seulement actuellement par jour.
Ah oui, c'est moins bien.
C'est une baisse de quasiment 90% des ventes.
Tim Cook doit pas être content là. Hein,
non, et d'autant plus que il y a.
Alors
quelques...
ce sont des comment dirais-je, des chiffres qui ne sont pas vérifiés par
non,
Apple. Ce hein, voilà,
pas
ce sont
vérifié,
des.
Parce que d'ailleurs, Tim Cook évite depuis un certain temps de dévoiler quels sont les vrais chiffres de ventes. Ils étaient en fait en avril dernier, l'année fiscale qui était dévoilée en avant-première, et en fait, ils n'ont jamais voulu donner les vrais chiffres.
Alors qu'en général, un produit Apple, on attend quelques jours. Quelques semaines maxi, puis après on commence à fanfaronner en disant il s'en est vendu des dizaines de millions, etc. Là, rien du tout concernant l'Apple Watch.
Rien du tout.
Alors de là tirer un plan sur la comète et dire que c'est un échec, c'est peut-être un peu trop rapide parce que ce n'est que le début. Hein. Mais c'est vrai que pour tester énormément de montres connectées, je me rends compte que finalement, c'est pas trop l'objet parce que l'Apple Watch est sans doute la montre connectée la plus aboutie. Mais on se pose quand même souvent la question, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et est-ce que la majorité des gens qui ont un smartphone vont investir dans ce genre d'appareil, que ce soit Apple ou Samsung ou Sony, etc. C'est la vraie question. Moi, franchement, je suis un petit peu dubitatif concernant la montre connectée.
Moi, j'ai vu pas mal d'analystes qui disent qu'il faut attendre en fait la version 2, parce que la version 2, elle sera pas, ça sera pas dépendant d'un smartphone, ça sera quelque chose de totalement indépendant.
On dit toujours ça pour les produits high-tech. Le premier iPad, non, il faut attendre la version 2, il y aura un appareil photo. Le premier iPhone, non, mais attends, parce que le deuxième, il y aura la 3G et tout ça. Donc peut-être que avec la montre connectée d'Apple, la numéro 2, ça sera mieux.
Bon, en tout cas, l'iPhone, on verra bien. Ils n'ont pas attendu la version 2 pour que ça marche.
Pardon ?
L'iPhone, ils n'ont pas attendu
non.
la version 2 pour que ça marche.
Oui, c'est vrai que le premier avait bien marché aussi.
Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer prendre l'Apple Watch, cette version de la montre connectée, comme un relatif succès dans la mesure où enfin les entreprises s'investissent là-dedans, développent leur app dédiée aux montres connectées, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Les montres connectées, c'est pas très nouveau. En revanche, avec la sortie de l'Apple Watch, on voit énormément de marques tenter se lancer.
Mais ça va être très difficile de chiffrer chiffrer l'échec ou le succès de l'Apple Watch parce que c'est un nouveau produit pour Apple. On sait très bien qu'ils vont pas en vendre autant que les iPads ou que les iPhones. Mais à partir de quel volume de vente on va se rendre compte que c'est un succès ou un échec? C'est ça.
C'est vrai qu'il y a un côté qualitatif. C'est-à-dire que ceux qui ont la fameuse iWatch sont vraiment complètement fous de cette montre, quoi.
Ah oui.
Et vous expliquez
ah oui.
Au début, oui, bon, oui. Je
ils
leur
font
pas
des
trop,
bisous
et après,
tout le
non,
temps.
Non, mais vraiment pour eux, c'est devenu peut-être encore plus fort que le smartphone. Mais c'est un objet technologique qu'ils adorent.
Mais voilà. C'est sans doute parce que au départ, ils sont fans de la marque d'Apple et ils sont fiers d'avoir un nouveau produit d'Apple.
Peut-être.
Voilà, c'est ça. Mais après. Est-ce que ça va se généraliser? Est-ce que tout le monde, est-ce que madame, monsieur ou madame Michu voudront acheter une Apple Watch? Rien n'est moins sûr. Si on proposait à Romain Chaperon, son top ou son flop?
Oui, François, moi aujourd'hui c'est un top puisque je vais vous parler de ce qui m'a le plus intéressé sur cette première partie de l'année, c'est la smart mobility. Alors vous le savez, hein, historiquement sur le marché américain, le cœur de l'industrie automobile, il se situe dans le nord-est du continent, à Détroit. Mais depuis quelques années, on observe un glissement progressif vers la... un glissement
vers la Silicon Valley.
Exactement.
Je lis dans vos pensées.
Ouais.
C'est ça.
Et c'est là, justement, dans la Silicon Valley, que le futur de l'automobile s'imagine. Pour nous, à l'atelier, on estime que la manière dont on se déplace, ça change déjà et ça va continuer à se transformer autour de quatre axes. Alors le premier, petit quiz...
La voiture autonome.
Sans chauffeur.
C'est ça?
Eh ben, c'était mon troisième, mais on peut.
Oh, pardon.
Alors là, vous m'étonnez.
La voiture électrique.
Alors le premier.
La voiture électrique. Mais j'hésitais entre la voiture autonome, la voiture électrique. Qu'est-ce qu'il nous prévoit, Romain?
Et le symbole de la marque automobile
Tesla.
Électrique. Voilà, exactement.
Non, mais même avant que vous terminiez votre question, j'ai la réponse.
Non, mais
vous avez vu. Voilà, c'est ça.
Ce qui est intéressant avec Tesla sur ce début. Alors déjà, ils ont annoncé avoir vendu 50 000 modèles S. Donc c'est la berline électrique et ils ont annoncé ça le 4 juillet dernier, le jour de la fête nationale aux États-Unis. Donc c'est assez intéressant. Malgré tout, c'est que 0,7% du marché des véhicules aux États-Unis. Donc c'est assez faible. Mais ce qui est assez intéressant, c'est dans le monde de l'innovation, on parle beaucoup d'écosystèmes et là Tesla est en train de construire un écosystème. Il y a le véhicule électrique. Elon Musk, le charismatique CEO de Tesla, il est aussi président de SolarCity qui construit des panneaux photovoltaïques. Une société californienne. Et là, il y a deux mois, ils ont annoncé Powerwall, qui est des stockages d'énergie. Donc en fait, ils sont en train de couvrir toute la chaîne de valeur de l'électricité. Donc ça, c'est le premier point sur l'aspect véhicule électrique qui est intéressant. Le deuxième, ce n'est pas le véhicule autonome, c'est le véhicule, on parlait des mondes connectés.
Connectés.
Ouais, tout à fait.
Oui. Bravo.
Et alors là, sur les véhicules connectés, il y a beaucoup de marques, les constructeurs s'y mettent, les équipementiers aussi, les GAFA s'y intéressent, mais le plus intéressant, c'est les startups. Les startups, elles vont très vite sur ce sujet. Et nous, il y a une startup qu'on connaît bien à l'atelier qui s'appelle Vinly. Ils ont levé 6,8 millions de dollars il y a un mois. Et en fait, eux, ce qu'ils proposent, c'est tout simplement de connecter un petit outil dans votre voiture. Vous le reliez via Bluetooth à votre smartphone. Et là, vous rendez votre voiture connectée et un début d'intelligence. Et en fait, toutes les voitures construites après 1996 peuvent recevoir cet outil connecté.
Oui, c'est la fameuse valise, vous savez, que les garagistes connectent.
C'est ça, un port OBD2, ça s'appelle.
C'est ça, exactement.
Ouais, tout à fait.
C'est la prise USB de la voiture, quoi, en quelque sorte.
Exactement. Et c'est intéressant parce que les constructeurs, eux, ils se positionnent plutôt sur le marché d'un point de vue premium. C'est plutôt les véhicules haut de gamme qui sont connectés et qui ont le plus d'intelligence. Bah, eux, voilà, les startups, elles rentrent sur le marché par le mass market.
Donc,
voiture autonome. L'emblème des voitures autonomes, c'est
la Google Car.
La Google Car depuis 2009. Là,
on n'a pas répété, hein, parce que vous pourriez dire.
Mais c'est incroyable. Hein.
C'est presque une chorégraphie tellement c'est beau, etc. Pas de répétition.
Pas de répétition. Là, ce qui est intéressant sur la Google Car, c'est qu'ils accélèrent vraiment à Google là depuis début juillet. Il y a 15 prototypes de Google Car, donc la deuxième qui circule sur les dans Mountain View. Alors Mountain View, c'est le siège historique de Google, et donc pour faire des tests en grandeur réelle pour vraiment optimiser la voiture. Globalement, l'enjeu, il est plus trop sur la technologie, mais il est plus sur le législatif, la sécurité et surtout l'usage. Alors, je sais pas pour vous, François, mais est-ce que vous êtes prêt à monter dans un véhicule autonome?
Ah, mais complètement.
Vous êtes prêt?
Ah, mais complètement. Je serai.
Pas du tout.
Pas du tout. Lila.
Non, du tout. Quid de la sécurité? J'ai rencontré Mikko Hupponen qui s'autoproclame un peu shérif de l'internet. Il m'a parlé des dangers des voitures connectées, de la vulnérabilité. On a déjà le cas de motos Ducati, qui se sont fait hacker. À des fins de vol, mais essayez de vous imaginer si on était capable de hacker le système de navigation, qu'est-ce qui se passe?
Non, moi je dis qu'on arrive à faire voler des avions tout seul, hein. Tous les Airbus, tous les Boeing qu'on prend volent tout seul. Je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à terme.
Quoi?
Bah oui, ils volent tout seuls ces trucs-là, où ils appuient sur un bouton et puis après ça atterrit tout seul, etc.
L'atterrissage quand même.
Non, même pas. L'atterrissage se fait aujourd'hui automatiquement, hein, aussi sur des avions.
Ils peuvent prendre la main, disons. Qu'ils ont le droit.
Bien sûr.
Et heureusement, ils ont savoir faire.
Si on arrive à faire atterrir un A380 tout seul, je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à faire rouler une voiture toute seule, quoi.
Oui,
en gros, c'est
sûr.
Dans ce contexte.
Et Jean?
Oui, mais écoutez, moi, je suis prêt. Je suis prêt, mais moi, je vous avoue que j'aime bien conduire. Donc bon.
Ouais. Et puis avec Jean,
je suis prêt, mais la notion de plaisir est un peu.
Et Jean, avec Jean, on serait prêt à prendre des risques pour tenter les nouvelles technologies. Oui. Jean, on enchaîne avec vous. Top et flop.
Oui, top et flop. Écoutez, on continue dans la voiture, hein, comme Romain l'évoquait. Il y a aussi une tendance qui est cette fameuse voiture qui vous arrive par quelqu'un qui n'est pas forcément un chauffeur de taxi. Donc ça, c'est aussi la grosse tendance de la voiture. Uber, bien sûr, aux États-Unis. Mais alors, il y a d'autres beaux succès qui sont en Asie que je ne connaissais pas, dont je veux vous faire part parce qu'ils sont quand même très très intéressants. Il faut réfléchir d'ailleurs un petit peu aussi nous autres Européens, parce que nous, on s'empresse en général de causer quelques problèmes judiciaires aux fondateurs de Uber, tandis que d'autres pays vont voir un peu différemment les choses. Lance par exemple, c'est le cas de la Corée, une application qui s'appelle Kakao Taxi, donc K-A-K-O. Ils ont lancé ça depuis mars dernier. Et l'idée est très intéressante parce qu'ils se basent sur la sécurité, la rapidité, la gratuité. Ce sont des chauffeurs que vous voyez vraiment avec leur carte de chauffeur, leur photo sur votre smartphone. Et vous êtes au travail, vous avez envie de rentrer chez vous, vous pouvez passer par cette application. Et le principe, en fait, c'est que à la fois les compagnies, les taxis indépendants, bref, pratiquement tous les chauffeurs coréens se sont inscrits sur Kakao Taxi et que ça marche très 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 fort. Pour vous donner juste un petit chiffre, voilà, donc la moitié des taxis indépendants se sont connectés à l'application et aujourd'hui c'est devenu vraiment la référence puisqu'il y a 10 000 demandes de courses par jour qui ont lieu sur Kakao Taxi. Je vous en donne un autre parce que là
on a un carré de chocolat dans Kakao Taxi ou pas?
Ah mais ça c'est peut...
Non, écoutez, parce que chez Uber on a la bouteille d'eau, moi à Kakao Taxi j'attends mon carré de chocolat.
Vous avez la sécurité, hein. François, vous avez la sécurité, c'est déjà pas mal. D'accord. On a eu 2-3 histoires avec Uber, donc là Kakao Taxi, bien. L'autre exemple, François, alors là je le trouve génial, en plus il est complètement chinois.
Mais en 20 secondes,
il, 20 secondes, bah alors je vous le donne très 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 vite déjà, ne serait-ce que pour prononcer le nom de Didi Kuaidi,
c'est
voilà,
sympa.
C'est 2 milliards levés pour lutter contre Uber qui arrive en Chine, c'est son premier marché, ça va devenir son premier marché.
Donc c'est
Uber.
Un concurrent d'Uber.
Oui, Didi Kuaidi, ça marche avec un téléphone, vous faites ça tout à l'oral comme à la criée par exemple, et vous dites Didi Kuaidi, tac, taxi, et en fonction du prix, de la géolocalisation du taxi, le moins cher, le plus proche de vous arrive et tac, le taxi est pour vous.
Didi Kuaidi. Tiens, je vais essayer sur les Champs-Élysées pour voir.
Ouais. Et si à Shanghai?
Ouais, parce que sur les Champs, ça va pas marcher.
Simple pour vous.
Ouais.
Pour Pékin, ça marche.
Ou sur les Champs-Élysées. Alors.
Champs-Élysées. Non. Joli.
Excusez-moi. C'est la fin de la saison. On est tous un peu
137 villes en Chine.
Sur les nerfs. Allez, on revient dans un instant. La suite de l'atelier dans un instant sur BFM Business avec notre dossier, avec Lila Megraoua. On va parler de transformation digitale des grandes entreprises et puis notre world tour direction l'Afrique du Sud. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
À suivre dans l'atelier numérique sur BFM Business, notre rendez-vous avec la rédaction de Zeronet.com, le crash test d'Antoine, bien sûr. Dans quelques instants, notre world tour nous emmènera du côté de l'Afrique du Sud. Mais auparavant, direction l'Usie avec vous, Lila Megraoua. Vous avez rencontré Gilles Babinet, qui est le digital champion français que l'on connaît tous auprès de la Commission européenne. Vous allez parler avec Gilles Babinet, donc, de transformation digitale des grandes entreprises, Lila.
Oui, François. Alors, on est toujours à l'USIE, la conférence de référence de fin de saison à propos de la transformation digitale des entreprises. On va rester sur le sujet. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Gilles Babinet. Vous êtes digital champion auprès de la Commission européenne. Vous avez également publié en 2014... Printemps 2014, l'ère numérique, nouvel âge de l'humanité, 5 mutations qui vont bouleverser notre vie, si je me trompe pas. Et également en février 2015, un autre opus, celui-ci sur le Big Data. Bonjour.
Bonjour.
Alors, à propos de transformation digitale des entreprises, ça fait quand même quelques temps qu'on en parle. Où s'en est ?
Alors la transformation est en cours. Je pense qu'il y a un phénomène d'accélération depuis un an qui est très visible dans les travaux que je mène sur la mesure de l'agilité digitale du CAC 40. Pour autant, il me semble qu'il faudrait essayer d'accélérer plus vite, ce qui est difficile. Plus les entreprises sont petites, plus elles ont du mal à effectuer cette transformation.
Pour quelles raisons, quels sont les freins?
Je pense qu'il y en a deux. Le fait qu'elles ont de faibles marges et donc qu'elles ont des faibles volants qui leur permettent d'investir dans ce domaine. Et puis le deuxième, c'est le fait que on a un management d'entreprises qui vieillit et donc elles ont du mal à finalement envisager ça avant les transitions des managers.
Est-ce que c'est pas également une histoire de fonction? On est passé de la DSI au Chief Digital Officer. Aujourd'hui, on dit attention, le DRH reste important dans la transformation digitale. Quel est le rôle aujourd'hui du Chief Digital Officer? Il est censé manager toutes ces fonctions là?
Alors effectivement, il y a une organisation différente dans les entreprises qui se transforment. Le CDO est un accompagnateur. Pour moi, l'importance du directeur général est fondamentale parce que on va changer d'organisation au travers du digital et on va devoir horizontaliser l'entreprise. Si on n'a pas un directeur général qui est absolument convaincu de la nécessité de transformer la structure de l'entreprise, ça va être très difficile de mettre en place une agilité d'entreprise digitale.
Donc ça, c'est un premier fondamental. Quels seraient les autres?
Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a le fait d'avoir un projet industriel qui fait que on passe d'un ERP à une plateforme. Ça, c'est un projet souvent lourd pour les grandes entreprises qui peut coûter plusieurs centaines de millions d'euros. Et puis, il y a le fait de mettre en œuvre concrètement dans l'entreprise le digital, de montrer, d'exemplarifier finalement la transformation digitale au travers d'applications mobiles, d'analytics, de hackathons, de mise en place d'API, de connecteurs de données. Donc ces deux temps-là doivent être simultanés. Puis il y a un quatrième aspect qui est essentiel, c'est l'ouverture sur l'extérieur. C'est le fait d'avoir ce qu'on appelle des connecteurs de données, des API qui permettent d'échanger avec l'ensemble des parties prenantes qui sont autour de l'entreprise. Ça peut être des fournisseurs, ça peut être des clients, ça peut être des ONG, ça peut être n'importe qui, des hackers, des développeurs. Et plus il y a de données qui est transactionnée, plus c'est bon signe pour l'entreprise.
On a l'éclosion assez florissante d'incubateurs corporate. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'innovation ouverte?
Oui, les incubateurs sont en général, il faut les accueillir avec enthousiasme. Pour autant, il est clair que parfois, certaines entreprises mettent en place des incubateurs en se disant que c'est ainsi qu'elles feront leur transformation digitale. Les quatre points que je viens d'évoquer sont indispensables et ne sont pas négociables.
En conclusion, quels seraient les chantiers pour les deux prochaines années?
Alors, pour les deux prochaines années, moi, j'aimerais bien qu'il y ait des chantiers en matière de régulation. Il me semble qu'il faut faire en sorte d'avoir un système universitaire de meilleure qualité. C'est essentiel. On voit que les écosystèmes de classe mondiale sont ceux qui réussissent à avoir une hybridation entre le monde universitaire et le monde de la recherche et le monde des startups. Ça, c'est aussi vrai en Israël, au Royaume-Uni, au Danemark qu'aux États-Unis. Et puis le deuxième facteur, c'est d'avoir une régulation du financement de l'innovation qui facilite l'abondement des capitaux privés qui sont, malgré tout ce que l'on dit en France, insuffisants pour réussir à se hisser à l'échelle d'un dragon digital.
Gilles Babinet, merci. Je rappelle, vous êtes Digital Champion auprès de la Commission européenne. Merci.
Lila, merci. Place à notre World Tour. Et c'est toujours avec vous, Lila. Décidément, vous êtes partout.
Oui.
Et nous allons, pour notre World Tour, aller du côté de l'Afrique du Sud, en ce samedi après-midi.
Oui, tout à fait. Alors, pour en parler, on va continuer notre petit tour avec notre partenaire, le SeedStar World. Alors, pour parler d'Afrique du Sud, on a le plaisir d'avoir Grégory Pepper. Bonjour.
Bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes régional manager du SeedStar World Afrique. L'Afrique du Sud, qu'est-ce qui rend l'écosystème start-up attractif?
Alors oui, tout à fait. Je suis actuellement à Johannesburg. On vient d'avoir notre événement à Cape Town il y a de cela une semaine. Donc au niveau de la spécificité de la région, je pense que ce qui est vraiment spécial avec l'Afrique du Sud, c'est que on a un mélange entre un côté très occidental, un peu high-tech, mais aussi ce côté très africain, bien entendu avec des réels besoins qu'on va avoir sur le marché. Donc au niveau de ce côté occidental, c'est clair que l'Afrique du Sud, c'est le deuxième pays en termes de taille du PIB en Afrique, mais aussi au niveau de l'index Gini, il est très élevé aussi, sachant qu'il y a une grosse différence entre les richesses en Afrique du Sud. Donc, c'est clairement très attractif. Et de notre côté, nous, on reçoit des startups de tous les horizons, autant au niveau high-tech, donc allant jusqu'au satellite et à l'application des données satellites, mais aussi du côté plutôt application des startups en zone rurale, des startups par exemple qui facilitent la distribution des produits dans les zones rurales, ou encore des personnes qui développent des détecteurs de fumée qui lient en fait les voisins entre eux pour s'aider en cas d'incendie dans les bidonvilles, les zones
démunies en Afrique du Sud. De ce que vous dites, si je comprends bien, il y a un réel besoin en matière de technologie, de connectivité, Internet.
Alors oui, en tout cas, tout ce qui est connectivité Internet est très présente en fait déjà en Afrique du Sud. C'est des choses qu'on les gens ne se rendent pas forcément compte en fait en Occident, mais c'est vrai qu'ici les gens sont super connectés. Déjà, vraiment, tout ce qui est niveau télécommunication, c'est très présent dans le marché sud-africain, en tout cas.
Et comment ça se passe par rapport à la structuration de l'écosystème tech sur place? Est-ce qu'il existe de nombreux incubateurs, accélérateurs, peut-être espaces de coworking qui vont aider à l'essor et à la mise en valeur de cet écosystème?
Alors oui, je pense que le mieux, c'est que je sépare donc la question en deux. Donc tout d'abord, l'écosystème. En termes d'écosystème, on a vraiment cinq piliers principaux qui vont constituer un écosystème. Donc tout d'abord, les entrepreneurs, les investisseurs, par la suite, le gouvernement, puis le niveau d'éducation, tout ce qui va être université, et finalement la culture. Et sur place, donc tout d'abord au niveau des entrepreneurs, comme je vous disais, on a vraiment une présence dans toutes les industries. Donc autant high-tech, satellite, autant des personnes qui développent des plateformes de streaming de musique niche, donc la musique africaine, ou encore, je regarde, du gospel nigérien. On a aussi des personnes qui créent le 911 version africaine, ou encore d'autres qui vont faire des connexions entre artisans et privés, des systèmes de ranking pour avoir les artisans les plus performants à un prix le plus abordable possible. Ensuite, au niveau des investisseurs, il y a une très bonne présence. On va dire qu'il y a un peu une différence entre Cape Town et donc la région du Western Cape, et puis au niveau de Johannesburg Pretoria, donc ce qui est plutôt Gauteng, il y a une différence entre les deux. On va dire c'est plus dans les phases plutôt early stage, donc tôt vers le Cap, et puis ici à Johannesburg, les sommes sont plus élevées, mais on parle plus de private equity. Ensuite, au niveau du gouvernement, il est aussi présent. Donc, dans notre cas, on a eu même une des députées de la ville de Cape Town qui était présente en tant que membre du jury à notre événement à Cape Town. Donc, ils sont clairement présents et ils sont aussi tout à fait d'accord d'aller plus loin avec nous. Donc, un gouvernement qui est présent ici. Et puis, ensuite, au niveau de l'éducation universitaire, on a de très bonnes universités dans les meilleures universités africaines. Certaines même l'Université du Cap, par exemple, qui est présente dans le classement des meilleures universités du monde. L'Université du Cap, donc Stellenbosch aussi à Cape Town, d'autres universités aussi à Gauteng, l'Université de Pretoria qui est aussi très connue. Et finalement, sur le point de la culture, on va dire que surtout Cape Town, en fait, est souvent comparé à la Silicon Valley.
D'accord.
On y retrouve vraiment une culture locale très dynamique, très créative. Et en particulier, on va dire qu'à Cape Town, on retrouve ça même dans tout ce qui va être restaurant, café, bar, ce côté très design, ce côté très presque avant-gardiste en fait, mais de la culture et du design en Afrique du Sud. Et ensuite, au niveau des accélérateurs, incubateurs, ici à Johannesburg, en l'occurrence, nous sommes en collaboration avec un incubateur qui s'appelle SW7, donc SW7, qui eux sont en partenariat direct avec Standard Bank, donc une des plus grosses banques commerciales en Afrique du Sud. Et puis, il y a aussi de nombreux d'autres projets. D'accord. Et à Cape Town, nous, on a aussi affaire, par exemple, à un incubateur qui s'appelle 88NPH.
OK.
Qui, eux aussi, sont actifs en tant qu'incubateur. Donc, les deux sont... dans les deux régions, on a une grande présence.
Et ça donne... En tout cas, ça donne envie, ça donne envie d'y aller. Hein. Ça donne envie d'aller en Afrique du Sud pour découvrir tout ça.
Non, c'est vraiment un endroit incroyable.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Grégory Pépin. Je rappelle, vous êtes Regional Manager du site Star World Afrique. Merci.
Merci beaucoup. On revient dans un instant pour la suite de cet atelier numérique et ce sera direction la rédaction de zeronet.com comme chaque semaine. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Merci d'être là. Comme chaque samedi, je vous rappelle que c'est la dernière de la saison. On sera là, bien évidemment, à la rentrée. Et puis, tout au long de cet été, on vous propose toute une série de best-of, les meilleurs moments de l'atelier numérique, à retrouver donc chaque samedi sur BFM Business. Pascal Samama est avec nous. Bonjour Pascal.
Bonjour François.
Pascal est journaliste à bfmbusiness.com et on va jeter avec lui un œil sur l'actualité que vous avez pu lire à la fois sur Zéro.net mais aussi sur bfmbusiness.com cette semaine. Pascal, on va commencer par l'Hadopi. Ah, l'Hadopi. Cette fameuse loi qui est censée régir les gens qui piratent du contenu illicite sur leur ordinateur. Eh bien, cette loi ne va pas être supprimée mais en revanche, elle va être modifiée.
Elle va être modifiée très largement. Il y a eu un rapport sénatorial qui vient d'être publié et qui fait une critique assez large sur tout le fonctionnement de l'Hadopi depuis son début. Alors depuis son début, c'est-à-dire avec la riposte graduée, l'Hadopi n'a jamais bien fonctionné. Ils appellent même cette administration une administration mal aimée, mal née. Et aujourd'hui, ils proposent de la modifier totalement. Ne pas la supprimer, comme ça avait été évoqué souvent, mais de la modifier vraiment en profondeur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les internautes vont pas être heureux, hein. Ça va être fini. Les mails vont continuer, mais à la fin, il y aura une amende. On évoque un montant d'amende pour le téléchargement de 100 à 140 euros. Alors, est-ce que ça va être par fichier? Est-ce que ça va être par, on sait pas encore, ça va être à préciser, mais quelque chose d'assez lourd. Autre chose, l'Hadopi va lister tous les sites de téléchargement illégaux pour peut-être faire un blocage administratif, pour les fermer et pour que les internautes n'y aient plus accès.
C'est déjà le cas, hein. Certains sites de torrents ont été coupés, hein, en quelque sorte. Hein.
Mais reviennent, on sait très bien qu'avec les sites miroirs, c'est un truc qui n'en finira jamais, c'est un débat sans fin, ils n'y arriveront pas. Il y a une étude qui est sortie, il y a toujours 10 millions de Français qui téléchargent illégalement et même les ayants droit parlent d'un volume incompressible de téléchargement pirate, ils l'admettent aujourd'hui.
En revanche, on oublie complètement la coupure de la connexion Internet.
Ça a été déclaré totalement illégal par le Conseil constitutionnel. L'Internet est un droit.
On aura une amende, mais on ne pourra pas nous couper la connexion. Hein. Très bien, parce qu'en fait, évidemment, une connexion Internet sert aujourd'hui à tellement de choses à la maison. Et pas qu'à télécharger illégalement.
Pas qu'à s'amuser.
On va maintenant enchaîner sur les Google Glass. Alors ça, c'est étonnant. Les Google Glass, projet pharaonique de Google, on en a entendu parler pendant des années. Et puis d'un seul, on a vu Google en parler de moins en moins. Et voilà que là, le concept de Google Glass ressurgit, Pascal.
Ressurgit, exactement, mais ressurgit pas pour le grand public, là, et est en train de revenir avec des applications pour l'entreprise. Alors, les Google Glass ont choqué les gens dans la rue, parce que les gens trouvaient que c'était un petit peu quelque chose d'intrusif. On pouvait être filmé, enregistré, photographié à son insu, ou à l'insu de son plein gré, comme on peut dire aussi.
Comme disaient certains cyclistes.
Exactement. Et donc, Google réfléchit et fait plus que réfléchir, hein. Il y a vraiment une vraie stratégie de retour des Google Glass, dans l'entreprise pour des applications très particulière. Ceci dit, est-ce qu'on peut réellement imaginer qu'avec l'investissement que Google a mis dans ce projet, elle se contente d'une version professionnelle? Moi, j'en doute totalement. Je crois qu'il va y avoir bientôt une version grand public qui va être réamorcée. Google va arrêter de communiquer un petit peu trop rapidement et puis présenter des prototypes. Je pense que le jour où Google présentera ses Google Glass version grand public, ce sera une version finale, définitive et totalement séduisante.
On va voir ça, on suivra ça de près parce que c'est vrai que c'est séduisant, hein, quand même, ce concept de Google Glass, même s'il pose évidemment pas mal de problèmes en matière de vie privée notamment. On enchaîne avec Facebook. Alors c'est vrai qu'en ce moment, il y a cette mode pour tous les, on va dire, les grands, les géants du net de sortir leur service de musique en ligne. Hein. Et il semblerait que Facebook... Alors on avait murmuré que Facebook allait sortir son service de musique en ligne. Là, véritablement, c'était une fausse information?
Pas tout à fait. En vrai, pas une fausse information. Ce qui s'est passé, c'est que des observateurs américains, des journalistes ont constaté que Facebook, les dirigeants de Facebook prenaient beaucoup de rendez-vous avec les grands labels musicaux. On s'est tous dit, après le lancement de l'Apple Music, tiens, Facebook va s'y mettre. C'est une stratégie des géants de l'Internet. Le but de ces services de streaming, c'est de faire en sorte que les internautes soient sur un service et y reste et puisse être avoir de la publicité, bref, qu'il soit totalement captif par ce site. Et en fait, Facebook n'a pas envie de faire un site de streaming audio. Il y aura certainement un site de streaming, mais ce sera un site de streaming vidéo. Et en fait, Facebook ne va pas attaquer Apple, etc., et tous les Spotify et Deezer, mais va plutôt s'attaquer à YouTube.
Ou peut-être même Netflix.
Et ou peut-être même Netflix avec des clips vidéo. Alors pour l'instant, on ne parle que de clips vidéo, que de la musique, mais pourquoi pas Netflix ?
Je vous rappelle que Facebook a passé un accord avec HBO en mettant en ligne des séries en avant-première sur Facebook.
Exactement, et Facebook, là, devient plus qu'une appli, devient plus qu'un réseau social, devient plus qu'un service. C'est une véritable plateforme dans laquelle on peut rester totalement, et ce qui fait pas plaisir ni à Apple ni à Google.
Mais on voit que Facebook se cherche en ce moment, hein, en sortant beaucoup de nouveautés et en essayant de capter une autre audience. On enchaîne avec Apple. Apple qui prévoirait une production des nouveaux iPhone assez impressionnante. Ces nouveaux iPhone qui seraient disponibles à la rentrée prochaine, hein, Pascal.
Exactement. Alors, on parle de deux nouveaux modèles, un iPhone 6S et un 6S Plus. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils seront plus puissants que les modèles précédents, évidemment.
Bon, jusque-là, on peut s'en douter. Hein.
Mais alors, Pourquoi est-ce que Apple, qui a pas l'habitude quand même de parler des produits qui vont sortir, comme on dit chez Apple, on ne parle que des produits qui sont en vente. Eh ben, c'est peut-être pour faire oublier un petit peu la déconvenue de l'Apple Watch, qui s'est pas aussi bien vendue pour l'instant que ce qu'Apple espérait. Et là, Apple est en train de rappeler qu'ils sont en train de balancer vraiment le maximum et ils veulent produire à très très grosse échelle. Ils vont lancer la production de 90 millions de nouveaux iPhone.
C'est énorme.
C'est gigantesque. Ouais. C'est gigantesque.
Tout ça pour être sûr qu'il y ait un iPhone sous les sapins d'ici Noël 2015.
Sous les sapins et même avant et même après. Je crois que vraiment ils veulent redorer, remontrer que renouer avec le succès. Apple a horreur de l'échec ou même des choses qui marchent pas bien. L'Apple Watch, ils vont le mettre peut-être un peu de côté pour monter une stratégie et continuer un petit peu plus discrètement. Ils vont mettre l'accent, en tout cas au niveau de la communication, sur l'iPhone.
Pascal, sa maman n'a pas d'Apple Watch, les amis. Parce que c'est
exactement,
vrai que...
je n'ai pas de montre connectée, j'ai des montres à aiguille mécanique, j'adore la mécanique.
Et voilà, mais parce que c'est aussi un vrai bijou, et c'est aussi ça le problème
c'est
de l'Apple Watch.
C'est exactement ça.
On ne peut pas considérer ça comme un bijou, comme une belle montre en fait.
C'est différent. C'est complémentaire.
On est d'accord. On enchaîne avec Microsoft. Microsoft alors, qui a une double information, alors économique cette semaine avec pas mal de licenciements annoncés, puis 8 000 licenciement annoncé par Satya Nadella. Mais là, on va se focaliser plus sur une annonce produit avec 4 nouveaux accessoires mobiles qui pourraient sortir bientôt.
Exactement. En fait, Microsoft, qu'est-ce qu'ils font ? Ils veulent se montrer comme l'une des sociétés high-tech faites pour les jeunes. Mm-hmm. Ils ont développé des services, ils ont revu totalement leurs OS. Satya Nadella, le nouveau patron de la boîte, est en train de refaire totalement l'entreprise. Et là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils préparent des accessoires mobiles, comme tous les accessoiristes. Alors, ça a un peu fuité. Alors, il y a 4 accessoires qui devraient sortir. Et c'est des petites enceintes, c'est des petites clés qui vont permettre connecter, qui vont permettre de ne pas perdre ses affaires. Bref, c'est un tas de petits accessoires. Apple rentre vraiment dans le grand public.
Microsoft,
qu'est-ce que j'ai dit ?
Apple. Eh oui, mais on en parlait juste avant.
Allez.
C'est pour ça, mais ça arrive. C'est
sors pas de ce corps, Steve Jobs.
Alors imaginez s'il avait une Apple Watch, ça serait encore pire. Voilà.
Non, ils sortent vraiment, ils veulent rentrer dans le grand public, ils veulent se refaire une image. Satya Nadella, je crois, a envie de rejoindre les GAFA, qu'on arrête de parler de Microsoft comme l'éditeur de Windows, l'OS qui équipe tous les PC. Et il veut qu'on parle un peu d'eux comme des acteurs des nouvelles technologies et du numérique tel qu'on connaît aujourd'hui.
Très bien, Microsoft donc, Microsoft qui s'apprête à lancer Windows 10, bien sûr, qui est le gros événement de cet été 2015.
Exactement.
Windows 10, très attendu par les utilisateurs de PC, qui sortira le 29 juillet prochain. On va maintenant parler de Doppel. C'est un bracelet connecté qui est un peu particulier, Pascal.
Exactement. Alors c'est assez marrant. Doppel, D-O-P-E-L.
Ouais.
Alors c'est un bracelet connecté qui va pas calculer la température, votre météo, votre battement cardiaque, le nombre de pas, qui va juste faire en sorte que vous soyez de bonne humeur toute la journée.
Ah, ça, c'est bien.
Donc, qu'est-ce que c'est? Il va vous envoyer des ondes dans le poignet qui vont se diffuser dans tout votre corps, et ces ondes vont avoir un petit peu l'effet d'une musique relaxante sur le corps, et en portant ce bracelet, vous serez heureux, tout simplement.
Mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque?
Si ça marche, à tout le monde de mettre ce bracelet.
Vous y croyez, vous?
Peu. Je serais un bon testeur. le lundi matin, quand je suis de mauvaise humeur, je vais mettre ce bracelet et voir si ça change quelque chose. Je serai un excellent testeur de ce bracelet. Si ça marche, si ça modifie mon humeur le lundi matin, eh ben, je le conseillerais à tout le monde.
Ouais, vous savez, ça me fait penser à ce petit bracelet, là, qui était soi-disant magique, qui déstressait les gens avec un truc magnétique.
C'est vrai.
Alors, qui était complètement bidon, quoi. Enfin, je veux dire.
C'est du placebo, quoi. Les gens qui y croient sont effectivement de mauvaise humeur, vont mieux. Et pourquoi pas?
Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'effet placebo. Peut-être que là, ça marcherait. On va terminer par WeSings. WeSings qui a mis à jour ses montres pour l'été, pour les vacances.
Eh ben ouais, les vacances, c'est la mer, c'est la piscine, c'est la plage, c'est on ne quitte plus sa montre. Et WeSings a quand même enfin décidé, et tant mieux, de préparer des montres étanches et un peu plus qu'étanches, vu qu'il les prévoit aussi pour les gens qui font de la natation. Donc c'est pas uniquement des montres qu'on pourra porter sous sa douche ou faire la vaisselle avec, ça va être de véritables montres qui vont pouvoir être gardés au poignet, qui vont calculer, bien sûr, qui vont faire des données sur la natation. Peu s'y était mis pour l'instant. C'est un vrai enjeu, parce que on peut pas imaginer avoir une montre et la laisser sur le bord de la plage pendant qu'on va se baigner, la laisser sur le bord. Bon, bref, c'est un coup à l'oublier.
C'est le cas de l'Apple Watch. On parle encore de l'Apple Watch. L'Apple Watch, vous pouvez pas vous baigner avec, hein.
Alors,
elle supporte les projections d'eau si vous vous lavez les mains, mais impossible, par exemple, de se baigner dans une piscine et encore moins dans l'eau salée de la mer, par exemple.
Exactement. Donc, la WeSings va pouvoir le faire. Ils en disent pas beaucoup plus. Ils vont préparer de nouvelles applications, de nouveaux services pour justement les adapter aux différents profils de nageurs. Les nageurs ludiques, les nageurs un peu plus confirmés. Mais ils sont vraiment dessus. Et tant mieux. Ça permettra de garder sa montre au poignet tout le temps.
Voilà, WeSings, qui, comme son nom ne l'indique pas, est une boîte française des habits. Cocorico. Voilà.
Cocorico.
Spécialisée dans les objets connectés et puis dans les objets, on va dire, santé, bien-être. Merci beaucoup, Pascal.
Merci,
c'était un
François.
Plaisir. Pascal Samama, donc journaliste à bfmbusiness.com, que vous pouvez lire au quotidien sur ce site, bien sûr. On revient dans un instant pour terminer cet atelier numérique et pour clore cette saison. Eh bien, ce sera Antoine Cyr et son crash test. À tout de suite.
L'atelier numérique. François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier, dans un instant le crash test pour clore cette saison de l'atelier numérique. Je vous rappelle qu'on sera là tout au long de l'été avec une série de best-of et évidemment de retour à la rentrée. Mais dans l'immédiat, c'est le dernier Silicon Zongo de Renaud-Edouard Barrault.
Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et auditeurs de l'atelier numérique sur BFM Business. Et bienvenue dans le Silicon Zongo, encore sur le coup de la chèvre. Cette semaine, je vais vous parler de décalage, ou plutôt d'absence de décalage. Il se trouve que je suis en France. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait très attention aux rues de province et aux rues parisiennes. Et moi, qui essaye de faire un break avec la Chine, je me suis rendu compte que cela allait être compliqué. Faut dire que j'ai mal commencé. Je suis d'abord passé par l'aéroport de Toulouse-Blagnac, tombé pour moitié et avec quelques turbulences sous pavillon chinois. Et c'est probablement cette proximité temporelle qui explique le fait qu'il n'ait pas encore été rebaptisé Toulouse-Jichang. En passant devant les parkings extérieurs de l'aéroport, grande banderole en mandarin. J'aurais bien aimé partager avec vous sa signification, mais en tant qu'imposteur professionnel, cela m'est totalement impossible. Et ce n'était pas fini. Qu'ai-je entendu dans les salles d'attente à Toulouse puis à Roissy? Les chouip, caractéristiques des messageries instantanées chinoises avec son chouip à l'accent aigu et le chouip à l'accent grave. Alors, essayez d'imaginer le bruit de la flûte à coulisses et vous aurez le son. Certes, ce n'était pas encore le chouip 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 en canon que l'on peut entendre sur les lignes intérieures chinoises et que l'appareil se pose, ou en tout cas a posé ses trois roues, mais c'est un début. Et puis après, je suis passé à Paris, Bali. Et là encore, impossible de faire l'impasse. Les touristes chinois sont incroyablement plus nombreux que lors de mon départ vers leur pays il y a 3 ans. Il y a 3 ans, ils sortaient des bus, allaient se restaurer dans des gargotes chinoises, passaient par les grands magasins et repartaient illico visiter les pays voisins. Maintenant, ils entrent dans toutes les boutiques, essayent ou ressortent illico si c'est trop compliqué pour eux. D'ailleurs, vendeurs et vendeuses ne savent pas trop quoi en faire de ces nouveaux touristes. L'anglais n'est peut-être pas très bon des deux côtés, et le chinois est encore trop rare en dehors du printemps et des galeries Lafayette. Dans les rues, couples et familles en goguette, devant Beaubourg, avec des perches à selfie, dans les petits restaurants trendy du Marais, dans les brasseries, les soirs de surchauffe, autour de breuvages alcoolisés. On m'a même dit qu'on pouvait en trouver, des touristes de l'Empire, jusque dans les plus petits gîtes du Perche, au lieu parisien s'il en est. Alors les Chinois arrivent, et ils sont très contents de nous rendre visite. Alors allez-y, accueillez-les, prenez en main leurs outils de communication, parlez-leur, même maladroitement. Voilà, c'était mon dernier message à caractère informatif, car en ce qui me concerne, c'est la der des der. Jieshu, Xiu, Yu, Chang Cheng, fin le avoir guerre, monsieur sur Google Translate. Oui, cela fait déjà quelques dizaines de mois que cette pastille sonore autoproclamée la plus inculte du monde en termes de digital sinophone a fait son apparition sur les ondes et il est temps maintenant de passer à autre chose, de renouveler la vision que l'atelier numérique porte sur le digital de l'Empire du Milieu ou dans la zone Asie-Pacifique. Il est temps de rafraîchir, d'innover, de laver la lassitude. Il est aussi temps de mettre en pause sa radio. Je vous souhaite à toutes et à tous d'incroyables vacances ou de somptueux voyages immobiles et j'en profite pour remercier l'équipe de l'atelier numérique, en particulier Antoine Cyr qui m'avait accepté dans l'équipe malgré mon indifférence au monde automobile et mon inculture cinématographique, François de Monaco, qui m'accueillait toujours avec le sourire malgré mon aversion cyclique vis-à-vis du consumérisme technologique, et aussi merci à Lila Megrawa, qui construit brillamment l'émission dans une demi-pénombre et a su me motiver, et puis merci à Jean de Chambure, Jean, qui va risquer son ordre établi dans un univers asiatique attrayant, mais quelque peu chahutant. Longue vie à l'atelier numérique, quoi. Et longue vie aussi à celui qui m'a aidé à chuter, Tencent, soit Tencent Kong Yuo Xiangong. Mais on vous en reparlera probablement plus tard de celui-là quand Jean arrivera à le prononcer ou pas.
Renaud Edouard-Barrault, merci beaucoup. Et Antoine, il est temps maintenant de retrouver notre crash test. C'est d'ailleurs le dernier crash test de la saison, hein, avant quelques semaines de repos bien méritées, quelques semaines de vacances. Mais l'atelier se poursuivra avec toute une série de best-of que nous sommes en train de vous préparer et on sera là à la rentrée. Antoine, donc, le point de départ de ce crash test, c'est Trifide.
Oui, avant les vacances d'été, je me suis dit qu'un bon petit crash test bien crépusculaire, ça nous maintiendrait en forme.
C'est exactement ce qu'il nous faut.
Et alors, pour être vraiment en complète contre-programmation, pendant que vous vous dirigez vers des plages sudistes, etc., je vous propose une apocalypse anglaise. Vous savez que moi, je suis assez anglophile.
Oui,
J'aime bien les Anglais, j'aime bien la campagne anglaise. Voilà, je c'est vraiment un pays que j'aime bien. Et j'aime bien aussi leur science-fiction, qui a été un petit peu, avec le temps, phagocyté par la science-fiction américaine. Et alors, il y a notamment, et c'est tout à fait intéressant de voir à quel point l'existence de la toile et des réseaux sociaux et des jeux vidéo aussi nous permet de les retrouver, il existe des créatures qu'on appelle les Trifides et qui ont été inventées par le célèbre auteur de science-fiction anglais John Wyndham,
oui.
Et qui a écrit donc en 1951 « Le jour des Trifides ». Et donc le jour,
ça fait peur.
Alors
hein,
le bah oui, vous aurez encore plus peur quand je vous aurai donné le début du jour des Trifides. Donc en fait un personnage se réveille dans un lit d'hôpital et il se rend compte avec terreur que les habitants de la Terre sont devenus aveugles et que des plantes mortelles, les Trifides, ont envahi les villes et les campagnes. Donc c'est quand même voilà le jour des Trifides n'est pas jour de joie.
C'est pas un jour gay.
C'est pas un jour gay. Ouais. Non, voilà. Bon. Et donc, c'est en fait un roman de science-fiction post-apocalyptique, mais c'est un roman qui puise dans une tradition littéraire britannique, puisque il y a forcément il appelle à une recréation de l'humanité, et donc on est un petit peu comme dans Robinson Crusoe, avec un recommencement, etc. Enfin, c'est quand même très anglais. Et du coup, d'ailleurs, c'est surtout, il faut bien le dire, les Anglais qui ont adapté les Trifides au cinéma et à la télévision. Vous allez voir pourquoi je vous en parle dans quelques instants. Alors, il y a un film de 1961 qui s'appelle la version en français, il s'appelle La Révolte des Trifides. D'ailleurs, c'est un
comme si ça suffisait pas. En plus, ça se révolte.
Voilà. C'est un film qui a été réalisé par Steve Seckley en 1962. La caractéristique d'ailleurs étant que c'est un film qui est une coproduction anglaise dans laquelle on retrouve une actrice française d'Hollywood que tout le monde a oublié aujourd'hui, qui s'appelle Nicole Moret, mais qui était très belle, je vous la recommande. Et puis alors...
Elle s'est fait attaquer par les trifides, j'imagine.
Bien entendu. Oui, bien et puis sûr. Alors, en 2009, il y a eu une mini-série qui a été faite en Angleterre avec 3 épisodes d'une heure chacun, donc 3 heures quand même de trifides. Et alors, si je...
Et oui,
trifides, voilà. Et puis alors, quand vous allez sur Allociné, on vous parle d'un film de 2011, mais alors là, c'est extrêmement lacunaire, et vraisemblablement, c'est un film dont la réalisation a été envisagée, mais qui n'a jamais...
Ouais, le film n'a pas abouti.
Mais le film n'a pas abouti. Toujours est-il que, si vous voulez la complète des trifides, vous l'avez sur YouTube.
Ah bon?
C'est-à-dire, le film de 61,
oui.
Qui est quand même c'est pas un mauvais film, hein.
Ah ouais? Non, c'est pas une série Z.
C'est une série B de science-fiction, mais c'est pas,
Oui, c'est, il y a pire.
Non, franchement, ça se regarde, quoi.
Ça se regarde.
Oui. Et donc, ce film-là, eh bien, vous le trouvez, sur YouTube. Et puis, la fameuse, série
donc de 3 épisodes.
Les 3 heures complètes de Trifide, vous la trouvez aussi sur YouTube. Et tout ça en accès tout à fait libre. Donc, vous pouvez vous faire
un week-end
Trifide sur YouTube.
Mais après, on sort plus. Dès qu'on voit un jardin, on court. Non?
Oui. Et alors, justement, vous avez prononcé le mot jardin. Car, si, après avoir regardé La Révolte des Trifides de 1962, puis le triple téléfilm Le Jour des Trifides de 2009,
ouais.
Vous n'avez pas assez de Trifides.
Vous en avez encore en rayon?
Oui.
Non.
En jouant à un jeu vidéo, et je vous donne en mille... Quel est ce jeu vidéo? Eh bien, ce jeu vidéo, c'est les Simpsons Springfield. Tout simplement. Jeu vidéo des Simpsons.
Ah oui?
Et donc, à un moment, les Simpsons ont rien de plus amusant ou plus intelligent à faire que d'aller planter des trifides dans leur jardin.
Ah oui.
Et alors, évidemment...
Ce Bart est quand même un sacré abruti, quand même. Avec tout le respect que j'ai pour lui.
Voilà.
Bon, non, mais franchement.
Et alors, comme dans les histoires, normalement, de Trifide, le Trifide, c'est quand même la plante, faut pas trop la laisser rentrer, quoi.
Bah non.
Ça se passe pas bien après. Bon. Donc là, j'ai trouvé un fort.
Parce qu'en fait, c'est une plante qui fait quoi? Quand elle vous attaque.
Ah ben elle bouffe tout, quoi. Elle met fin à l'humanité. Absorbe les pouvoirs des humains, etc. Les humains se réveillent tous aveugles. Hein.
C'est terrible.
Quand même terrible,
ah oui.
Bien sûr. Et donc vous avez un forum sur lequel on pose cette grave question: si je plante des trifides, vont-ils mettre fin à mon jeu? Puisque normalement, c'est ce qui se passe. Et là, on vous dit non, non, pas du tout. Ces trifides-là ne vont pas faire disparaître les villages. Je vous promets que ce ne sera pas la fin de l'humanité. Vous allez même, si vous décidez de braver les trifides et de les faire pousser, au contraire, si vous y arrivez, vous allez gagner des points. Et donc, voilà, il y a une incitation à faire pousser des trifides dans votre jardin si vous jouez à ce jeu de Simpson. Alors, j'avoue que je suis pas allé vérifier moi-même à quel endroit était l'option trifide, à quel moment du jeu il fallait être arrivé, etc. Mais ça a l'air sérieux. C'est pas daté du 1er avril.
Eh bien, dites-moi, alors qu'est-ce qu'on fait alors? On va plus dans les jardins, parce que si on se fait attaquer par des trifides,
bah oui.
Antoine.
Alors non. ils sont assez marrants, les trifides, hein. Ils sont pas si effrayants que ça quand
D'accord.
on les voit, mais ouais. Mais en fait non, c'est
ils
pas
sont
du
très
tout.
Méchants.
Bah oui.
Antoine, c'est sur ce joli crash test un peu effrayant que malgré tout nous allons pouvoir partir en vacances.
Bonnes vacances donc, sans trifide.
Voilà. Ou alors peut-être en lisant les romans. Hein.
Le livre de Wyndham, oui,
le
bien sûr.
De Wyndham,
et
ça
puis il y a eu des séquelles faites par d'autres écrivains, comme souvent.
Antoine, bonnes vacances et
bonnes vacances.
Sera là à la rentrée. L'atelier numérique qui se poursuit durant tout l'été avec une série de best-of qu'on est en train de vous préparer avec Lida Megrahua. D'ici là, bon week-end à vous toutes et à vous tous. Profitez bien et on sera donc là le week-end prochain. Salut à tous et bonnes vacances.
BFM Week-end.